jusqu'à midi, plongez dans les yeux de Gaïa avec Bruno Soriano.
Bienvenue dans les yeux de Gaïa, votre émission sur le bonheur, j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que nous allons parler rire. Et oui, je reçois Corinne Cosseron. Elle a formé l'école internationale du rire. Allez, on va se taper une tranche de rire dans un instant dans les yeux de Gaïa. Corinne Cosseron, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la fondatrice de l'école du rire, c'est ça?
Absolument, de l'école internationale du rire et du bonheur aussi.
Oula, mais ça c'est tout un programme. Alors, c'est quoi le rire et le bonheur?
Le rire, ça consiste déjà à remettre plus de joie dans sa vie et à rire le minimum préconisé par les médecins, c'est-à-dire 10 à 15 minutes chaque jour, sinon on tombe malade. Et le bonheur, c'est le fait de comprendre que, en fait, on peut faire le choix du bonheur, qu'on n'est pas obligé de voir systématiquement le côté noir des choses et qu'il y a un moyen d'être plus heureux en s'occupant de son propre bonheur. Voilà, ça marche ces choses-là.
Oui, ça marche, mais bon, après, on a envie de dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, non?
C'est vraiment une question de choix, et c'est ce que les Américains appellent être proactif. C'est-à-dire que si on attend que ça vienne tout seul, il y a des gens qui pensent que chercher le bonheur, c'est justement un moyen de ne pas le trouver, qu'il faut attendre qu'il vienne tout seul. Moi, je crois pas. Je crois qu'on peut s'entraîner, non pas à chercher le bonheur, mais à prendre conscience des moments heureux qu'on vit chaque jour. Et il y en a plein, mais parfois on les laisse passer et on se concentre beaucoup plus sur tout ce qui cloche.
Alors, comment vous êtes venu l'idée de créer cette école internationale, je précise? Du rire.
Au départ, en visionnant un reportage sur un médecin indien, le docteur Madan Kataria, qui s'est rendu compte que ses patients joyeux guérissaient mieux que ses patients sinistres, et qui a décidé carrément de fermer son cabinet médical et de faire le tour du monde pour former des animateurs de clubs de rire. Et ça m'a semblé fou et drôle surtout. Donc je me suis dit, moi je ne veux pas traverser ma vie sans avoir rencontré cet homme-là et sans voir ce qu'il enseigne. Et je suis allée me formé auprès de lui, simplement un week-end. Il a ouvert l'un des premiers clubs de rire en France, sur la plage de Frontignan. Et ensuite, ça a été une espèce de chose tout à fait inattendue. La première année, 500 personnes sont venues rire dans ce club. Et du coup, moi, j'ai eu envie d'aller enquêter et de faire un tour du monde des techniques de la joie de vivre pour voir s'il était le seul à s'être dit que c'était important de rire ou s'il y avait d'autres gens qui pensaient ça et qui avaient mis au point d'autres techniques. Et oui, en fait, il y a plein d'autres gens à travers la planète qui trouve que c'est important de stimuler sa joie de vie, de l'entretenir, d'en prendre soin et de s'occuper de son bonheur, et qu'on détaille d'excellentes raisons pour vous convaincre de le faire. Donc c'est une vie très amusante.
Alors il y a combien de temps que vous avez créé cette école?
Il y a 10 ans, nous avons fêté nos 10 ans cette année, et je pensais vraiment pas que ça perdurerait. C'est un peu comme les restos du cœur, on se dit ça sera quand même bien quand les gens auront plus besoin de l'école du rire, mais en fait les demandes sont de plus en plus importantes, on intervient évidemment dans le monde de la santé, du social, mais aussi dans les entreprises, notamment sur les risques psychosociaux, pour essayer de remettre de la convivialité au travail, de réfléchir sur les valeurs qui font qu'on va travailler, et on essaye d'aider les gens à vivre mieux le quotidien, où que ce soit, à la maison, en famille ou au boulot.
Alors, quand vous avez dit à votre entourage que vous allez monter une école du rire, tout le monde a rigolé?
Non, mes amis n'ont pas du tout rigolé. Ils ont trouvé ça scandaleux que je leur donne rendez-vous de 6 à 7 pour aller rigoler avec moi en payant 5 euros en plus. Enfin, au début, c'était gratuit. Maintenant, c'est très très cher. Maintenant, c'est 5 euros. Et ils trouvaient que c'était bien mieux quand ils venaient à la maison n'importe quand et qu'ils dînaient en plus et que c'était gratuit. Donc, mes amis n'ont pas du tout trouvé ça drôle en général. Et en fait, vous faites un autre relationnel au club que vos amis. Vos amis rient déjà avec vous. Déjà. Ils n'ont pas besoin de ça en plus. Quoi.
Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a du mal à rigoler? C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui est dans nos gènes de rigoler.
C'est totalement dans nos gènes, c'est totalement naturel, c'est tout à fait utile. Quand on rit, ça nous permet d'agiter notre diaphragme et de brasser nos viscères, donc de digérer à la fois physiquement et émotionnellement ce qui nous arrive. Donc ne plus rire nous rend malade, c'est pas tellement que rire soit un médicament, mais ne plus rire nous détraque. Et c'est donc naturel de rire, mais c'est le stress actuellement, c'est la rapidité à laquelle on vit, les informations qui sont complètement anxiogènes et qui passent en boucle, toutes ces choses-là font qu'on a de plus en plus de mal à rire, en effet. Alors par contre, paradoxalement, ce sont justement tous les spectacles humoristiques et tous les films drôles qui vont avoir le plus de succès, parce que c'est un peu comme si c'était le dernier endroit où les Français et les Occidentaux en général s'autorisent encore à rire aujourd'hui. Alors là, ça va, on a le droit de rire le samedi entre 20h et 24h quand on dîne avec ses amis ou au spectacle.
Vous,
en fait, il faut rire tout le temps, partout.
Vous rigolez tous les jours?
Oh, oui, heureusement, puis en plus, je suis mariée à un homme drôle, donc ça m'aide.
Ah bon, bah alors ça va, alors. Ça va. Oui, parce que, il y a ça aussi, si jamais, dans votre famille proche, hein, donc, dans votre entourage, si vous étiez avec quelqu'un de pas marrant.
Mais je crois que on s'attire quand même mutuellement les uns les autres. Et la seule chose que ma mère m'ait dit au moment où ils étaient en âge de choisir un mari, c'est trouve-en un avec lequel tu rigoleras. Tout le reste, elle s'en fichait. Et je crois que c'est vraiment important et que j'ai retransmis ça à mes propres enfants. Traverser la vie avec quelqu'un avec qui on rigole pas, ça doit être vraiment sinistre. Donc c'est un critère vraiment important. D'ailleurs, il paraît que ça vient en tête des critères sur les sites de rencontres, de choisir un compagnon ou une compagne qui nous font rire.
Et il y a des gens qui rigolent pas du tout. Il y a des gens qui sont qui savent pas ce que c'est que rigoler. Est-ce que même ceux-là, vous arrivez à les faire rire?
Ben moi, j'ai pas à les faire rire, en fait. J'ai à les convaincre qu'ils peuvent se réautoriser à rire et qu'ils vont être bien plus heureux en riant. En général, c'est pour des raisons d'éducation. Il y a des familles, en fait, où on ne rit pas. Alors maintenant, les nouveaux travaux, les récents travaux de la psychologie positive ont démontré qu'effectivement, nous ne sommes pas tous égaux, que notre hérédité joue dans la capacité au bonheur. Donc, je pense que le rire se range un peu dans cette famille-là. Et que 50% de notre capacité à rire est liée à nos gènes. Mais en fait, seulement 10% sont liés à ce qui nous arrive à l'extérieur, c'est-à-dire que si vous êtes dans un pays en guerre sous les bombes, ça va influencer votre capacité à rire seulement 10%, et si vous gagnez au loto ou vous avez une vie très heureuse, ça fait que 10% de votre capacité quand même, pas à rire mais à être heureux. Et 40% va dépendre de ce qu'on décide de faire pour soi. Et ça, pour moi, ça a été une grande nouvelle, que ce soit prouvé scientifiquement, qu'effectivement, 40% de notre capacité à être heureux, du résultat final de notre bonheur, vient de ce qu'on décide de faire ou pas pour soi-même. Et donc, le fait de prendre en main cet aspect-là de notre vie, de se dire « Ok, je m'occupe de mon bonheur », ben ça joue énormément, parce qu'aucun d'entre nous n'a 0% d'hérédité de capacité au bonheur, de toute façon. Donc, ça fait passer le cap des 50%.
Alors, il y a des fois aussi où, ben, dans la vie, il y a des choses qui ne vont pas forcément, et on peut apprendre des choses graves, des décès, tout ça. Là, on va pas se mettre à rigoler quand même.
Absolument pas. Ce qu'on enseigne en rigologie, c'est que pour rire d'une manière saine, joyeuse et authentique, on n'a pas le choix. Il faut être au clair avec l'ensemble de ses émotions. Et donc, être capable de pleurer quand c'est triste, être capable de se mettre en colère quand on dépasse les limites qui nous protégeraient, être capable d'avoir peur aussi quand il y a des raisons d'avoir peur. Pour une mère, il n'y a rien de plus terrifiant qu'un enfant qui a jamais peur. On sait qu'il va être en danger et qu'il risque sa vie carrément à chaque voiture qui passe devant. Donc, toutes nos émotions sont importantes, toutes nos émotions nous aident à vivre. Et en général, quand quelqu'un n'arrive plus à rire, il y a d'autres émotions bloquées. Donc, tout le travail de la rigologie, ça va être justement de trouver un chemin joyeux vers l'ensemble des émotions et apprendre à débloquer ce qui est bloqué pour plus de fluidité, et c'est dans cette fluidité qu'est la liberté, le bonheur de vivre, et enfin le bonheur justement, il se cache là.
Alors, le rigoler est toujours associé au bonheur, parce qu'on dit aussi qu'on peut rigoler nerveusement, ou rigoler quand on apprend une chose assez importante, on peut aussi se mettre à rire, et on voit des fois dans des décès des gens qui se mettent à rigoler. Ça, c'est une autre forme de rire, ou c'est une libération également?
Quand j'avais écrit mon premier livre qui s'appelait « La rigologie mode d'emploi », remettre du rire dans sa vie, je m'étais amusée à décompter toutes les manières de rire qui existent. Et effectivement, il y en a plein, il y en a des dizaines. Il est évident que quand on rit jaune, quand on se moque, quand on rit contre, quand on est cynique, ça n'a plus du tout tous les bénéfices pour la santé que libère un rire sain, un rire avec, un rire généreux. Il y a des tas de manières de rire. Donc le rire dont je vous parle moi, c'est évidemment le rire de joie, le rire de partage, le rire ensemble. Parce que ce qui s'appelle encore rire, mais qui est cynique, qui est contre, etc., en fait, physiologiquement, ne s'apparente plus du tout au rire. On va pas du tout libérer les mêmes hormones. On va avoir des hormones beaucoup plus proches de celles du stress que les hormones, vraiment, les endorphines qu'on libère au moment où on rit, au moment où on fait du sport, au moment où on est heureux, en fait.
Eh bien, je vous propose de marquer une première pause. On va aller rigoler pendant cette pause et on se retrouve dans un instant pour la seconde partie dans Les Yeux de Gaïa. Seconde partie dans Les Yeux de Gaïa aujourd'hui avec Corinne Cosseron. On découvre l'école internationale du rire et on voit qu'il y a plein d'applications dans le rire. Je vois même sur votre site internet qu'on peut maigrir en riant.
Oui, ça c'est le défi que je me suis lancé il y a 2 ans. Je me suis dit que la rigologie, je l'utilisais pour régler à peu près tous les problèmes de ma vie, mais plutôt les choses émotionnelles. Et je n'avais jamais eu l'idée de me demander si en l'appliquant vraiment soigneusement à mon problème personnel, qui est un problème de poids, parce que je suis une énorme et j'aime manger, si ça pourrait faire quelque chose. Et je me suis rendu compte que oui. Et en fait, j'ai inversé totalement le problème. Jusqu'à présent, je m'étais toujours dit, comme beaucoup de gens, « Ah !» quand j'aurai maigri, je serai plus heureuse. Et je me suis dit, et si je me concentrais sur davantage de bonheur, sur le bonheur d'être bien dans mon corps, même quand il est trop rond, sur le bonheur de manger, même quand je suis supposée manger moins, parce que je suis au régime, si j'inversais tout, et si en m'installant dans ce bonheur de vivre, je me mettais à perdre du poids. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Maigrir en riant, c'est un livre qui sort là, dans quelques jours, et c'est surtout un programme qui est vraiment révolutionnaire, puisqu'il part à l'envers. Il part, d'abord, c'est un programme qui est très plaisant, puisqu'il va s'agir de développer son bonheur et de se réconcilier avec son corps, avec son volume, avec la nourriture, avec le problème de l'alimentation. Et du coup, au bout d'un moment, on commence à perdre du poids et on arrive à un moment donné à son juste poids. Pas forcément à une taille mannequin, mais à un poids dans lequel on peut vivre en se sentant bien, en se sentant beau, en se sentant souple, en pouvant vivre tout ce qu'on veut. Quoi. Alors, c'est une vraie réconciliation corporelle.
Justement, on dit souvent que les personnes un petit peu bien en chair sont souvent des rigolos ou des rigolotes. Pourquoi on fait cette association ?
Ben ça, c'est carrément prouvé scientifiquement. Il se trouve que les endorphines, qui est la morphine, qui est l'hormone qu'on libère quand on rit, notre morphine naturelle qui lutte contre les douleurs, qui nous rend euphoriques, ces endorphines se stockent dans l'organisme, dans les lipides. Donc chez les gens chez lesquels il n'y a pas de masse graisseuse,
eh oui.
Il n'y a pas de stockage possible.
D'accord, donc plus on est un petit peu en chair, plus on va rigoler alors.
Bah, je sais pas si on va plus rigoler, mais on va pouvoir davantage stocker les endorphines qu'on libère au moment où on rigole. Alors peut-être que du coup, on se sentira suffisamment bien pour rire beaucoup plus souvent. Mais c'est vrai que souvent, quand on fait un casting dans un film, si on veut mettre un personnage au revêche, on va le prendre plutôt anguleux. Ceci dit, j'ai des potes vraiment pas très gros et qui rigolent bien.
Oui, on peut pas faire non plus d'amalgame. Alors, l'école du rire, c'est bien, mais bon, tout le monde rigole. Est-ce qu'on n'aurait pas pu créer l'école des pleurs? Parce que c'est vrai que pleurer, on sait pas pleurer non plus. On garde nos émotions. Oui, autant le rire est une émotion, autant les pleurs aussi. Est-ce que c'est peut-être votre prochain projet, ça ?
Non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait déjà en application. Dans la rigologie, on ne rit bien que si on est au clair avec l'ensemble de ses émotions.
Oui, mais c'est pas annoncé clairement.
C'est-à-dire aussi ses larmes, sa colère, sa tristesse, et on passe par toutes ces émotions-là quand on fait la formation. On peut pas faire l'impasse. Il y a des moments où dans la formation de rigologie, les rigolotes pleurent, ça arrive.
Mais on aurait pas
tous, hein, mais il y en a qui ont besoin de ça.
Et de là à appeler l'école internationale du rire et des pleurs?
Non, ça m'amuse pas. Vous avez déjà des écoles de cri primal et de choses terribles comme ça. Mais la mienne, elle est vraiment spécialisée. J'assume. J'assume de m'occuper de rire et de bonheur.
Mais c'est bien. Je vois même sur votre site, il y a SOS Urgence Bonheur. Alors, on connaissait SOS Médecin, on connaissait SOS Dents, SOS tout ce qu'on veut. Là, c'est SOS Urgence Bonheur. Est-ce que la société va mal à ce point-là?
Oui, je crois. Je crois qu'on s'autorise plus à être heureux, que c'est considéré presque comme mal vu. Moi, je passe pour une farfelue, tout simplement parce que je dis que je fais le choix dans cette vie ici et maintenant d'être le moins malheureuse possible, voire même le plus heureuse possible. Oui, mais c'est un vrai choix de vie, en fait. Hein. J'ai connu aussi mes moments de tristesse, de désespoir, de deuil, de maladie. J'ai connu mes moments bien noirs. Mais en fait, justement, j'ai pas adoré. Donc, je me suis dit, maintenant, je vais essayer de faire... Que ça soit le moins long possible quand ça arrive. Bien sûr, je peux pas empêcher mes amis d'être malades, les gens que j'aime parfois de mourir. Je vis cette tristesse-là, comme les autres gens, et j'ai une période de deuil. Mais je trouve qu'entre deux catastrophes, j'ai envie d'être heureuse, au moins dans ces moments-là. Et je me suis rendu compte que du coup, en me ressourçant vraiment pleinement dans les moments où je peux me le permettre, eh bien, j'ai plus de force pour faire face aux vrais drames et aux vraies difficultés de la vie qui existent, oui, mais qui, heureusement, ne sont pas quotidiennes.
Alors, dans une vie, une journée de tous les jours, vous allez rire combien de minutes par jour?
Alors, les médecins grecs de l'Antiquité préconisaient 10 à 15 minutes de rire par jour. Moi, je crois que je les ai largement, mais honnêtement, je ne fais pas d'exercice pour ça. Il se trouve que j'ai une vie joyeuse, que je fais beaucoup de bêtises, je suis maladroite, je fais des gaffes. Enfin, j'essaye d'en rire, quoi. J'ai deux solutions, ou j'en pleure, effectivement, ou j'en ris, et je prends ça avec un peu plus de légèreté. Je répare quand il y a à réparer. Mais donc déjà, je pense que si on doit avoir qu'un seul humour, alors autant avoir au moins l'humour de soi, et être capable de rire de soi, et en passant une journée entière avec moi-même, je vous garantis que j'ai mon quart d'heure de rigolade.
Alors, on dit également que quand quelqu'un nous fait rire, c'est une part de séduction aussi, de faire rire quelqu'un. Vous confirmez ?
On dit que femme qui rit est déjà à moitié dans le lit.
Oui, oui. J'osais pas le dire, moi, hein, mais bon.
Bien sûr, c'est une arme de séduction, parce que la première chose que va faire le rire, je crois, c'est d'enlever la peur. Et si vous allez à un rendez-vous, que vous êtes vraiment tout à fait en train de vous demander comment ça va se passer, etc., que ce soit un rendez-vous amoureux ou un rendez-vous professionnel, à partir du moment où il va y avoir rire, la glace va être brisée, le contact va être beaucoup plus rapide, la confiance va s'installer, et donc ça va vraiment aider tout, donc y compris évidemment dans la séduction. Le docteur Henri Rubinstein, qui est neurologue, avait démontré que le parcours du rire dans le cerveau était le même que celui de l'orgasme, avec montée, détente, exaltation, enfin bon, je ne sais plus dans quel ordre c'était, mais enfin ça suivait le même parcours, et il préconisait donc le rire pour la rééducation du plaisir amoureux.
Est-ce que dans vos rêves, la nuit, est-ce que vous rigolez?
Alors, en tout cas, je ne crois pas, mais je sais que j'ai des rigologues qui viennent faire une semaine entière de stage et qui racontent que quand elles rentrent à la maison, leur mari râle parce qu'au milieu de la nuit, à 4h du matin, dans leurs rêves, elles ont hurlé de rire. Mais elles doivent avoir des tendances un peu somnambuliques qui font qu'elles passent à l'acte et que leur rire s'entend. Moi, je ris pas trop, en fait. Hein. Je ris juste selon mes besoins. Donc, ça me poursuit pas la nuit, mais ça me fait du bien. Juste.
Mais ça veut dire que si, par exemple, après, il y a deux façons de faire. Vous cassez un vase auquel vous teniez, soit vous allez dire « Oh mince, et vous en voulez », soit vous mettez à rire. Vous, ça va être plutôt « Je me mets à rire », parce que de toute façon, le vase, il est cassé.
Oui, voilà. Je ne ris pas systématiquement de tout le temps non plus, mais j'essaye de... Bah, parfois, c'est vrai que pour un vase, j'en ai rien à fiche.
Pour moi, ça la
personne
vase.
Qui a le vase dans les mains va compter beaucoup plus que le vase lui-même, ça c'est sûr. Oui, même si parfois, je suis aussi quelqu'un qui se met facilement en colère, je suis quelqu'un qui peut être anxieux, j'ai toutes ces choses. Ah, d'ailleurs, je crois que c'est parce que moi, j'avais beaucoup de soucis avec l'ensemble de mes émotions, mon stress, mes peurs, mes angoisses, etc., que j'ai dû mettre au point un jour quelque chose qui s'appelle la rigologie pour venir à bout de mes propres problèmes. Si j'avais été quelqu'un tout à fait serein, qui allait très très bien et qui était zazen toute la journée, j'aurais certainement jamais mis au point tout ça, quoi. Ça correspondait à un besoin pour moi. Et je suis quelqu'un de terrain, il fallait que ça marche. Et c'est pour ça que ça marche si bien. C'est que je l'ai testé sur moi, mais je l'ai testé aussi sur tous les gens qui viennent au club et à l'école depuis 10 ans. Et on change les exercices, les techniques, les pensées, et tout ça au fil des années, de manière à ce que ce soit rapide, efficace, ludique, et qu'on se sente mieux avec tout ça.
Eh bien, on va marquer une seconde pause dans les yeux de Gaïa, puis on va se retrouver dans un instant pour rigoler ensemble avec Corinne Cosseron aujourd'hui. Troisième partie dans les yeux de Gaïa, on se tape une tranche de rire aujourd'hui avec Corinne Cosseron, elle est la fondatrice de l'école internationale du rire. Alors, quand on dit école, vous avez des élèves, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que tout à l'heure, bon, on a vu qu'il fallait rigoler dans la vie, AAAOO, c'est ce que vous avez marqué en gros sur votre site, mais vous formez des gens à rire?
Absolument, à la fois le grand public, tous ceux qui ont envie de retrouver leur rire et de se reconnecter à leur joie. On fait des clubs de rire, des clubs de bonheur aussi, des clubs de jeux, des cures, on peut partir en vacances une semaine. J'ai des semaines de vacances intelligentes, c'est-à-dire que on part et on en profite pour se faire du bien durablement, pour faire un point et un bilan de où on en est au niveau de son bonheur et de sa joie. Alors voilà, et en plus, je forme aussi depuis 10 ans, dans 15 pays, des professionnels de la santé, du bien-être, de l'insertion sociale, des intervenants en entreprise et des enseignants.
Alors, dans la santé, bon, on connaît un petit peu les clowns qui vont voir les enfants malades, tout ça, on voit un petit peu que ça a des avantages. Dans le milieu de l'entreprise, ça doit être quand même beaucoup plus compliqué, parce que quand il va falloir faire rire des ouvriers et puis faire rire le PDG qui, lui, ne pense qu'à une chose, c'est de savoir la cotation en bourse de son entreprise, ça doit pas être évident quand même.
Les interventions qu'on fait sont surtout de deux ordres, on en fait plusieurs, mais les deux principales, ça va être la gestion du stress. Or, le rire répare point par point tout ce que le stress démolit. Donc là, on est assez efficace en donnant des techniques aux gens pour leur apprendre à gérer leur stress légèrement, joyeusement, etc. Et on intervient aussi énormément sur le team building, c'est-à-dire la cohésion d'équipe, parce que le rire est un accélérateur de relations humaines et que quand on intervient, quand on a la chance de pouvoir aller en entreprise, on va permettre aux gens d'apprendre à se connaître directement au niveau de leurs émotions, profondément, rapidement et dans une certaine légèreté avec cette protection qu'offre le rire dont on parlait tout à l'heure. Donc on intervient beaucoup dans ces deux domaines-là. Et parfois on va faire rire effectivement les ouvriers tout seuls et les patrons d'un autre côté, mais parfois on intervient aussi d'une manière verticale avec tout le personnel d'une entreprise ou d'une usine, depuis la personne qui fait le nettoyage des bureaux jusqu'au PDG.
Voilà, et ça va, ça se passe bien.
C'est extraordinaire. Je veux dire qu'il se passe vraiment quelque chose de fort. En général, les gens qui font appel à nous n'oublient pas notre passage.
Oui, je pense.
C'est-à-dire qu'on va directement dans une espèce de joie partagée qui n'a rien d'artificiel, qui est sincère. C'est-à-dire que bon, il y a une pause dans l'entreprise pendant. En général, c'est bien quand on intervient une journée entière ou deux jours. Et c'est vraiment deux journées entre parenthèses pour que les gens prennent le temps de réfléchir à qui ils sont, comment ils communiquent les uns avec les autres, quelles sont leurs valeurs, quel est le sens de leur travail et comprennent que de toute façon tout ce qui est bénéfique pour eux à titre individuel est forcément bénéfique pour eux dans leur travail et est forcément bénéfique aussi pour le chef d'entreprise et pour la compagnie parce que tout ce qu'on peut apporter comme outil va permettre qu'il y ait moins d'absentéisme à cause du stress, à cause des maladies diverses et variées, des douleurs, donc du personnel qui va mieux, va travailler mieux et c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise. D'ailleurs, la plupart des entreprises qui font appel à nous sont des multinationales ou des entreprises qui ont aussi des bureaux aux États-Unis où toutes ces choses-là sont beaucoup plus connues qu'en France. On intervient aussi maintenant de plus en plus dans des PME françaises.
Alors,
a commencé par les grosses boîtes.
Est-ce que vous avez des récalcitrants, des gens qui ne savent pas ou qui ne veulent pas rien?
Bien entendu. Alors, surtout en entreprise, quand on a un syndicaliste un peu énervé et que tout à coup on lui explique que de 11h à 12h, c'est comme ça, le patron a décidé que l'école du rire venait et qu'il allait falloir qu'il rie, il le prend très mal. Donc là, j'ai vraiment un travail de séduction à faire.
Mais si
pas obligé de rire.
Oui, mais cela dit, si c'est l'inverse, si c'est le syndicaliste qui aura le patron en disant de 11h à midi on fait l'école du rire, c'est peut-être le patron qui va pas rigoler.
Si le syndicaliste. Bah, écoutez, il y a une très très grande entreprise française où on a été appelé là actuellement, c'est tout à fait d'actualité, et ce sont les syndicalistes qui ont demandé au patron de faire venir l'école du rire.
Ah,
c'est assez incroyable quand même.
C'est la première fois
que c'est dans ce sens-là.
C'est génial.
Ça va tellement mal, ils sont soumis à des suicides au travail, ils sont tellement déprimés, ils n'en peuvent plus, qu'ils ont dit « faites venir l'école du rire ». Et donc le patron ne savait même pas qu'on existait. Et c'est assez incroyable. Hein. Donc vous voyez, ça marche dans tous les sens. Parce que le rire est universel, parce que le besoin de se détendre, d'aller mieux, de dédramatiser, de se reconnecter à ce qui va bien en soi, est un véritable besoin et que on est vraiment très fort au niveau de tout ce qui est dilution du stress. Quoi. Essayer de se reconnecter à quelque chose qui va bien en soi, c'est là qu'on est pertinent.
Et c'est reconnu médicalement? Est-ce qu'il y a eu des études de fait, mais vraiment poussées, que le rire réduisait
Absolument.
Les maladies, réduisait le stress
Ah oui, alors sur le rire, c'est depuis les années 70, il y a des études qui ont été faites à l'initiative d'un homme qui était journaliste au départ, qui s'appelle Norman Cousins, qui a été atteint d'une spondyarthrite ankylosante qui aurait dû normalement le tuer et qui a décidé de quitter l'hôpital pour se mettre dans l'hôtel en face et visionner des films des Marx Brothers et manger de la vitamine C aussi. Et non seulement il a vécu, mais il a survécu pendant plus de 20 ans. Grâce à ça, il dit que c'est le rire qui l'a sauvé. Et du coup, il a fait le tour de tous les labos américains, aux États-Unis. Il a obtenu un titre de docteur honoris causa, qui est quand même assez incroyable parce qu'il n'était pas médecin au départ. Et il a réussi à bouger les labos pour qu'il fasse les premières études scientifiques sur les bienfaits du rire sur la santé. Et c'est là qu'on a découvert que quand on rit, on libère des endorphines, que les endorphines, ça va fonctionner contre la douleur, qu'on libère aussi des catécholamines et qu'on libère aussi d'autres hormones qui vont avoir des propriétés anti-inflammatoires. Et c'est pour ça que nous, par exemple, à l'école du rire, on intervient énormément auprès des associations de patients cancéreux, auprès des personnes qui souffrent de fibromyalgie, même de Parkinson aussi, parce que on va pouvoir aider, non pas à soigner la maladie, malheureusement, on n'a aucun pouvoir là-dessus, mais au moins à faire que le patient se sente mieux, mieux moralement et mieux physiquement aussi, avec moins de douleurs et moins d'inflammation. Et quand on intervient dans ces services-là, on sait qu'il y a moins de prises de somnifères, moins d'antidouleurs et moins d'anxiolytiques après notre passage. Tout comme quand les clowns passent dans les services d'enfants à l'hôpital, c'est la même chose.
Vous voulez que je vous appelle docteur du rire ?
Non, rigologue, c'est joli, je trouve.
Rigologue, c'est vous qui avez inventé le mot ou pas?
Oui, on a choisi rigologue parce qu'on voulait pas mettre le mot thérapie dedans, on voulait vraiment que ça reste ouvert à tout le monde et on voulait que ce soit rigolo et donc quoi de mieux que ce petit mot enfantin avec og au bout.
Oui,
donc, voilà.
Alors, il y a également le yoga du rire, est-ce que c'est quoi exactement? Vous pouvez nous définir?
Alors, yoga du rire, c'est une des nombreuses disciplines de la rigologie. En fait, j'ai démarré avec ça, avec ce yoga du rire qui est assez incroyable. et qui permet de rire en groupe avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais au bout d'un moment, pour moi, ça ne m'a plus suffi parce que ça marche surtout bien sur les adultes, ça marche même beaucoup moins bien sur les adolescents, c'était pas très utile sur les enfants. Donc c'est comme ça que j'ai entrepris ce tour du monde des techniques de la joie de vivre qui m'a permis ensuite de trouver par exemple de la sophrologie ludique qui est idéale avec les adolescents ou du clown qui va être idéal avec les enfants et comme ça d'étoffer en fait la boîte à outils du rigologue. Et la différence c'est que par exemple pour se former au yoga du rire il faut 2 jours, pour se former à la rigologie il faut plus de 2 ans. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup plus d'outils dans la rigologie.
Alors, mais les gens que vous avez formés pendant 2 ans, ils vont devenir quoi après? Ils vont être thérapeutes du rire?
Ben, ils sont formés, ça fait 10 ans que ça dure.
Non, mais je sais.
Ils sont rigologues, alors parfois ils utilisent ça en plus de leur métier. On forme des médecins, des psychologues, des infirmières, des gens qui interviennent déjà dans l'univers du bien-être, des intervenants d'entreprise. Ils vont ajouter des ateliers de rigologie à ce qu'ils proposent déjà, en fait.
D'accord. Et en fait, les gens aujourd'hui, on s'aperçoit que bah, c'est toute la dimension de l'amour, de l'amour, du rire, du cœur qui n'est plus présent.
Oui, oui, c'est sûr que la rigologie telle que je la pense, c'est une histoire d'amour. Et même maigrir en riant aussi, je me suis rendu compte en écrivant que c'était une histoire d'amour et que nos histoires de kilos qui touchent absolument beaucoup plus de gens qu'on pense, puisqu'il y a à peu près 1 Français sur 2 qui se pense trop gros, alors que c'est faux. Il n'y en a que 1 sur 3 qui l'est vraiment. Donc il y a vraiment tout un rapport à notre corps. En fait, c'est une histoire de désamour de nous-mêmes. Et je crois que l'essentiel de nos problèmes, que ce soit des problèmes de kilos ou d'autres choses, sont un véritable et profond problème de désamour de nous-mêmes. Et que le chemin est par là. Et qu'en nous réaimant nous mieux, on aime évidemment mieux et les autres et la vie et tout ce qui nous entoure. Donc la rigologie, c'est une grande histoire d'amour en fait. Merci d'avoir mis le doigt dessus.
Eh bien, on va se retrouver dans un instant pour la 4e et dernière partie dans Les Yeux de Gaïa. Aujourd'hui, on rigole avec Corinne Cotteron. Dernière partie dans Les Yeux de Gaïa aujourd'hui avec Corinne Cotteron. On parle de rire. C'était quoi votre métier à la base?
J'étais journaliste, j'étais réalisatrice de films aussi pendant longtemps.
D'accord, donc oui, vous étiez pas très très loin de rigoler. On rigole chez les journalistes ou pas?
Ça dépend, oui, on peut. Mais ensuite, en fait, à l'âge de 30 ans, j'ai repris des études de psychologie et je les ai interrompues en 4e année parce que je me suis rendu compte que j'avais pas envie de passer ma journée à entendre des choses tristes et que je voulais bien aider les gens, mais par le chemin de la joie. Et je pense qu'à l'époque, s'il y avait eu des études de psychologie positive en France, qu'il n'y a toujours pas, mais qui va bientôt apparaître, je pense, dans notre pays, c'est à ça que je me serais formée et du coup, j'aurais jamais inventé la rigologie. Donc, j'ai pas de regrets aujourd'hui parce que je me dis que j'ai été obligée de créer l'outil qui me manquait, un outil pour aider les gens, mais sur le chemin de la joie de vivre. Parce que je pense que non seulement on peut avancer par le chemin de la joie, mais qu'en plus, non seulement c'est plus confortable, mais c'est au moins aussi efficace et nettement plus joyeux et plus rapide surtout.
Oui, et puis on va le dire, vous êtes bien occupé quand même, hein, puisqu'on a eu du mal à trouver une date. Et donc vous allez quand même dans des pays différents. Je ne sais pas si vous avez été psychothérapeute, si vous auriez fait tout ça. On voit également qu'il y a une journée mondiale du rire.
Alors, il y a une journée mondiale du rire qui a été créée par le médecin indien Madame Kataria, qui a inventé le yoga du rire, qui est célébré sur les 5 continents le 1er dimanche de mai chaque année, et que je célèbre donc depuis 10 ans en France, mais j'ai créé autour un rassemblement international des rieurs qui est de plus en plus long. Cette année, il va durer carrément 2 semaines. Il y aura des stages de formation.
Non, mais vous allez avoir mal aux mâchoires à force de rire.
Non, parce que dedans, pour la première fois, nous allons créer le premier festival des pratiques du bonheur. Il n'y avait rien qui existait dans ce domaine-là. Donc, nous créons FestiBonheur cette année. Ça va avoir lieu au nord de Montpellier, dans un magnifique endroit qui s'appelle le Hameau de l'Étoile,
oui,
qui est un village entièrement dédié au développement personnel, où il y a plein de salles pour faire les stages et où on pourra dormir. Et c'est un partenariat avec le Hameau de l'Étoile. Et donc, on va créer ce premier festival du bonheur. Et j'en rêve déjà, j'ai les yeux qui pétillent en pensant aux 25 invités qui vont venir nous proposer 50 ateliers différents pendant plusieurs jours, du 1er au 5 mai. Et ça, c'est une super belle aventure.
Oui, je vois qu'il y aura clown à l'hôpital, il y aura du qigong, il y aura de la visualisation, convivialité au travail, des massages, etc. etc.
Plein de danse aussi. J'ai trouvé plein de techniques de danse très, très joyeuses. Parce que je pense que pour se reconnecter à sa joie, il faut aussi passer par le corps. C'est pas qu'une histoire de tête.
Est-ce que vous pourriez envoyer un dossier à nos hommes politiques?
On n'arrête pas de me demander ça en ce moment. C'est
bah
ça,
oui.
Je vais trouver sinistre ou quoi? Je peux plus faire une interview sans qu'on me demande d'aller faire rire tout le gouvernement.
Bah,
moi, ça me fait pas très mon rire.
Oui, mais ils sont quand même pas très joyeux, quoi.
Non, ils sont pas très joyeux, mais la situation en France n'est absolument pas joyeuse non plus. Donc, c'est peut-être bien qu'ils la traitent avec sérieux. Ceci dit, traiter une situation avec sérieux n'oblige pas à se prendre soi-même au sérieux, bien entendu.
Vous vous prenez au sérieux, vous ?
J'essaye pas trop, non, puis il n'y a pas de quoi, franchement. Je ne suis jamais rigologue.
Votre plus beau souvenir en tant que docteur rigologue ?
Mon plus beau souvenir, je crois que mes... Ah, mes plus beaux souvenirs, c'est les tout premiers souvenirs. C'est une femme qui est venue me voir, qui avait une quarantaine d'années et qui était très très triste, qui avait le visage extrêmement triste et qui nous trouve sur la plage et qui dit « C'est vous, l'école du rire ?» Et je dis « Oui ». Elle me dit « Bah écoutez, moi ça fait 2 ans que je ne ris plus parce que mon mari a été très gravement malade et il vient de mourir. Et donc non seulement je ne ris plus, mais les gens rient plus avec moi. J'ai plus entendu de rire depuis 2 ans. Est-ce que vous croyez que je vais retrouver mon rire en venant ici ?» Je lui ai dit, écoutez, en tout cas, vous êtes la bienvenue, mais peut-être qu'on va vous agacer complètement, parce que nous, on rit sans raison, et ça sera peut-être insupportable pour vous. Mais vous êtes la bienvenue, et c'est pas grave si vous riez pas. Et elle est venue, et elle m'a pari. Et elle a pari une fois, elle a pari une semaine, elle a pari 1 mois, elle a pari 3 mois. Mais elle nous a dit, est-ce que je peux rester? Parce que rien que d'entendre des gens rire, déjà, ça me fait du bien. Est-ce que je peux rester même si je ris pas? Évidemment qu'on lui a dit qu'elle pouvait rester. Et au bout de quelque chose comme 6 mois, quand même, où elle venait et où elle ne riait jamais, et on a fait ce qu'on fait toujours à la fin de nos séances, c'est une méditation du rire. On s'allonge et puis on laisse venir ce qu'il veut et c'est une crise de fou rire collective. Et ce jour-là, sur la plage, il faisait froid. On n'a pas pu s'allonger. Donc on l'a fait debout. Et il y avait là un homme absolument extraordinaire qui ressemble vraiment au bonhomme Michelin, qui a un gros ventre comme ça et qui s'appelle Esprit et qui avait un rire incroyable, quoi, vraiment un rire d'ogre presque, un truc très très sonore comme ça. Et notre amie qui ne riait jamais était toute petite et s'est retrouvée coincée contre le ventre d'Esprit et sa tête à elle s'est retrouvée complètement secouée par les grands rires de ballonnement de ventre d'Esprit. Et là, même elle s'est mise à rire, quoi. Elle est partie dans une crise de fou rire absolument extraordinaire qui ne s'arrêtait plus, et elle a été mais transfigurée. Comme si elle avait rajeuni de 20 ans, elle est devenue super belle tout à coup dans ce rire, et c'était formidable. Alors on a tous fait comme si c'était normal et qu'elle riait à chaque fois, et je lui ai envoyé un petit mail après pour lui dire à quel point ça m'avait émue de la voir rire comme ça, et elle a attendu 2 jours, et elle m'a dit, c'est extraordinaire, c'est comme une porte qui s'est rouverte, j'ai retrouvé mon rire, et depuis 2 jours, je re-ris, et voilà, et ça a été merveilleux, elle a continué à venir toute l'année scolaire, elle a retrouvé son rire,
l'année scolaire
et à la fin
du
de l'année,
rire.
Elle a dit, bah maintenant je vous laisse, parce que je sais de nouveau rire toute seule.
Bon.
Ça, c'est un beau souvenir.
Et est-ce que vous pouvez rire à la demande, si je vous demande de rigoler, vous pouvez rire maintenant?
Je pourrais, mais ça serait technique, c'est pas très intéressant. Je préférerais rire avec vous. Est-ce que vous voulez qu'on rie ensemble?
Mais moi, je ne sais pas rigoler.
Alors, il y a un exercice physique.
On va le faire à tous les gens qui nous écoutent surtout. Alors,
voilà,
qu'est-ce qu'il faut
alors,
faire?
Sauf ceux qui conduisent une voiture
bien
en ce moment, sinon ils vont rentrer dans la voiture de devant.
Voilà.
Tous les autres,
c'est ce qui peut être drôle aussi,
mais bon. Et puis, vous allez penser à quelque chose qui vous fait rire quand même, ça va aider. Dans une situation ridicule, où vous avez été ridicule, c'est bien, ça marche pas mal. Puis vous allez inspirer plein d'air par le nez, jusqu'à être plein d'air au bord de l'explosion. Et là, vous allez lâcher l'air sur le son, haha. Alors je vais le faire, donc je
allez-y.
Pense à une situation ridicule, j'en ai plein, j'inspire. Et là d'ailleurs, rien que de penser à quel point c'est ridicule ce que je suis en train de faire, moi ça me fait rire.
Alors, des fois on rit aux larmes. Pourquoi on associe les larmes avec le rire?
Alors, parfois c'est des larmes de rire, mais ça peut être aussi des larmes de tristesse. Parce qu'il se trouve que nos émotions sont toutes rangées ensemble dans le cerveau limbique et que l'émotion des larmes et l'émotion du rire, enfin la tristesse et le rire, vont avoir la même expression corporelle. Dans les deux cas, ça va déclencher des grandes secousses dans le diaphragme. Quand vous pleurez, et vous secouez votre diaphragme, et quand vous riez, vous faites exactement la même chose. Alors que quand vous avez peur, vous pouvez être totalement en apnée et bloquer votre diaphragme. C'est une émotion qui physiquement est très différente. Alors ce qui se passe par exemple, parfois, c'est que des gens viennent au club de rire en disant « moi je ris plus ». Ils s'installent, ils arrivent à la méditation du rire, et ce qui va sortir à ce moment-là, alors qu'ils s'imaginent qu'ils vont rire, ce sont des larmes. Et ils se rendent compte petit à petit que s'ils riaient plus, c'est parce qu'ils avaient eu besoin de pleurer à un moment donné, et qu'ils n'en avaient pas eu la possibilité, parce qu'on ne l'a pas toujours. Il y a des moments dans la vie où on ne peut pas s'offrir le luxe de pleurer, on prend sur soi, et ça reste emmagasiné à l'intérieur, tout ce qui ne sort pas reste à l'intérieur, et c'est pas fait pour. Et du coup, ces grandes secousses de diaphragme du rire, faites par les exercices, vont déclencher leurs larmes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ensuite, ils se sentent libérés. Et en général, ils pleurent qu'une fois, peut-être une deuxième séance où ils vont encore pleurer, et ensuite, ils sont libres, ils arrivent enfin à rire. Et ça, c'est génial, ce moment-là.
Eh bien, Corinne Cosseron, merci beaucoup, hein, vous nous avez bien fait rire, et puis je renvoie tous les gens intéressés, bien sûr, sur votre site internet, hein, l'écoledereire.org. C'est l'école internationale du rire. Si vous aviez une phrase pour conclure cette émission.
Eh bien, développez votre bonheur, parce que plus vous serez heureux, et plus les gens autour de vous le seront aussi.
Vous êtes heureuse ?
Oh oui.
Ça sort du fond du cœur. Merci beaucoup, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dans les yeux de Gaïa, votre émission sur le bien-être et la spiritualité.